Maurice Lemoine, donc ce bouquin Chavez président, Flammarion, c'est sorti il y a quelques semaines et c'est 800 pages d'un docu-roman. Alors appelons ça un docu-roman où vous racontez finalement autour d'une journée que vous avez vécue comme journaliste et comme reporter, le 11 avril 2002, ce fameux coup d'État. Mais d'abord, on va vous demander de faire un peu de pédagogie, rappeler un petit peu la situation du Venezuela, brièvement, et puis un peu l'aventure de Chavez.
Alors, ce qui m'a fait rire dans votre question, c'est le brièvement, vous savez, donc j'ai du mal. Bon, Venezuela, pays pétrolier, cinquième producteur mondial de pétrole, qui dans les années 70 devient le Venezuela saoudite, du fait de la crise pétrolière qui voit arriver des sommes énormes dans le pays, puisqu'il touche l'équivalent de 20 plans Marshall. C'est pas mal, hein. Bon, qui, pendant cette période, jette 70% de sa population en dessous du seuil de pauvreté. Bon. Une classe moyenne qui se constitue sur le pétrole. C'est l'époque où les Vénézuéliens qui vont faire leurs emplettes à Miami, hein, sont connus comme les Stavarata. Alors Stavarata, c'est la contraction de deux mots espagnols, et Stavarata, c'est pas cher. Hein. Ou ils sont connus aussi comme les Damedos, donnez-moi deux. D'ailleurs, on a de l'argent, on en achète deux. Évidemment, l'embellie pétrolière se termine, il y a le Venezuela qui s'est endetté, se retrouve dans une situation économique catastrophique, et à ce moment-là, protagoniste connu, le Fonds monétaire international intervient, ajustement structurel, et donc la révolte dont je parlais tout à l'heure, le Caracaso, 3000 morts. Bon. On a, dans ce pays, une génération de jeunes officiers qui sont entrés dans l'armée au début des années 70, Chavez y rentre en 71, qui sont écœurés par cette démocratie corrompue, hein, et qui conspirent, on peut le dire, depuis 1982. Puisque en 1982, Chavez, sous le saman de Guerre, qui est l'arbre sous lequel Bolivar venait se recueillir, fait un serment avec quatre de ses camarades. Nous jurons que nous ne prendrons ni repos ni trêve jusqu'à ce que le peuple soit débarrassé de ses chaînes. Hein, en gros, là, c'est un truc très militaire, très. Hein, c'est, bon. Et donc, la conspiration se fait doucement au sein de l'armée. Le Caracaso, évidemment, porte la situation sur paroxysme. Et 92, Chavez tente son coup d'État. Il le rate. Et là va se passer un élément extrêmement important, c'est que pour la première fois au Venezuela, quelqu'un assume ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il est présenté devant les caméras de télévision, il appelle ses camarades qui combattent encore à arrêter les combats en leur disant, écoutez, là c'est pas la peine, on a raté notre coup. Il dit, je suis le responsable de ce coup, je l'assume, nous n'avons pas atteint nos objectifs, por ahora, pour l'instant.
Ah voilà, c'est ça.
Et ça résonne.
Pour l'instant,
dans tous les quartiers populaires de Caracas, dans les campagnes, au fond des bidonvilles, le pour l'instant. Et un fait intéressant, c'est qu'au moment de ce coup d'État, la population ne descend pas dans la rue. Elle ne descend pas dans la rue pour appuyer Chavez et ses camarades qu'elle ne connaît pas. Et on ne sait pas si c'est des militaires, après tout, d'extrême droite ou de gauche, on ne sait rien. Mais en même temps, elle ne descend pas dans la rue pour défendre la démocratie. C'est une affaire entre militaires, la population ne bouge pas. Et néanmoins, Chavez va devenir très rapidement l'homme le plus populaire du pays. Il est emprisonné, il est amnistié au bout de 2 ans parce qu'il y a une énorme pression sociale et que pour détendre cette pression, le président Caldera libère Chavez. Chavez reprend son activité politique, confirme qu'il veut prendre le pouvoir et au terme d'un débat au sein de son mouvement, décide qu'on va le prendre par la voie démocratique. Et donc il se présente aux élections en 80, il commence sa campagne en 96, avec une hostilité des médias permanente. Quelques semaines avant l'élection, on lui donne 6% des bulletins de vote, hein, les sondages. Il va les gagner évidemment très largement, et à partir de là, va commencer ce qu'on appelle la révolution bolivarienne. Entre le moment où il est élu et le moment où va avoir lieu le coup d'État à son encontre, il n'y aura pas un opposant politique arrêté, il n'y aura pas un média fermé, il n'y aura aucun signe de ce qui pourrait constituer une dictature. Hein. Entre-temps, il a, je vais parler de la Constitution, hein, il y a eu l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Alors c'est pas 5 technocrates qui se sont réunis dans une pièce pour faire la nouvelle Constitution, on a élu une constituante. La constituante a délibéré, y compris avec les Indiens, des constituants indiens, des constituants venant des minorités. La constitution a été prouvée par référendum, et c'est là que vont commencer les problèmes en réalité pour Chavez, puisque par exemple, elle interdit la constitution de privatiser l'entreprise nationale de pétrole, puisque par exemple, elle introduit la notion de sécurité alimentaire pour le pays, puisque par exemple, elle donne des droits aux autochtones, aux Indiens, hein, en gros des droits que sont ceux que réclament les apatistes. Et c'est vrai que chez nous, on s'est beaucoup passionné pour les apatistes, sans souvent se rendre compte qu'au Venezuela, il se passait quelque chose d'important pour les Indiens, puisqu'ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont 240 000 sur 25 millions d'habitants, mais pour la première fois depuis l'arrivée de Chavez, il y a un gouverneur indien, il y a des maires indiens, bref, une constitution qu'on peut considérer, y compris les adversaires de Chavez, considèrent comme une des plus avancées d'Amérique latine. Bon. Et ensuite, il va rentrer dans la phase sociale de son projet, avec, et là c'est le feu aux poudres, hein, là c'est vraiment le casus belli, l'approbation en novembre 2001 de 49 décrets-lois, dont la loi de réforme agraire, dont la loi sur les hydrocarbures, dont une loi de la pêche. Et là, évidemment, l'opposition rentre frontalement en conflit. Et c'est ce qui va amener au coup d'État. À partir de ce moment-là, on commence à préparer le coup d'État d'avril 2002.